Lectothèque, chapitre 13, où il sera question de faire dériver un objet émission dont pourront se saisir quelques oreilles à droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, une, deux, auditorice, bon jour. Nous aimerions ici vous proposer une sorte de déambulation. Déambulation, oui. Déambulation, oui, mais. Déambulation, oui, mais avec, auprès, en compagnie de Jean-Hugues Larcher, qui va nous parler de son rapport à la lecture, et donc à l'écriture, et donc à la musique, et donc ne lis plus, regarde, ne regarde plus, va. Bonjour Jean-Hugues.
Bonjour Delphine.
Alors, grosso modo, nous intéressera comment tu es tombé dans petite A, la marmite littéraire, petite B, l'objet littéraire, petit C, l'obsession littéraire, petit D, ici, ta définition.
Alors, je suis tombé dans la marmite littéraire assez tardivement, finalement. On va dire assez tardivement pour certains, et peut-être tôt aussi, enfin vers 17 ans, 17 ans, 18 ans, je croise l'œuvre de Camus, Albert Camus. Et donc c'est ma première marmite littéraire.
D'accord. Voilà.
Et Camus, tout de suite, m'ouvre à des écrivains qui sont à la fois des penseurs, c'est-à-dire Nietzsche, Sade et Lautréamont. Donc déjà, on est sur des gros niveaux. Alors, est-ce que je comprends l'amplitude de leur œuvre au départ, c'est pas sûr, mais en tout cas c'est ça qui m'interpelle dans l'œuvre de Camus en lisant L'homme révolté et en lisant aussi Le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire les choses sur l'absurde.
Voilà. D'accord.
Donc la marmite littéraire, elle est un peu, je tombe un peu dans l'absurde avec Camus.
D'accord.
Voilà comment ça se passe.
Alors je vais t'arrêter juste un petit peu, faire une sorte de rewind. On va revenir à un autre préalable chez Auguste.
Oui.
Où tu m'as parlé aussi de quelque chose qui était contre la lecture, finalement, de tes parents aussi.
Voilà. Alors, c'est vrai que dans mon milieu familial, j'ai trouvé qu'il y avait un manque de curiosité, comme dans beaucoup de familles françaises. Voilà. Donc, c'est pas sûr que les familles soient souvent au parfum de ce qui est le plus intéressant dans la littérature. Donc c'était les lectures qu'on me donnait, ou que j'avais apportées en tout cas, c'était Pierre Loti avec Ramucho, voilà. Premier de Cordée, de Frison Roche, par exemple, voilà. Donc c'était des choses que je trouvais un peu trop régionalistes, justement,
oui.
Même si c'était l'alpinisme et le Pays Basque, voilà. Et après la musique, ça ne dépassait pas la sphère d'Offenbach, maintenant, je réécoute avec plaisir, d'ailleurs. Mais à l'époque, je trouvais ça un peu ringard, quand même.
Mais comment tu t'expliques que tu as pu être critique par rapport à comment...
Je ne sais pas. Je pense qu'on... D'abord, on m'a parlé de Zarathoustra, puis on m'a dit... C'est-à-dire que mon intérêt littéraire, il a croisé Nietzsche assez rapidement.
Oui, tu l'as confronté,
J'ai confronté, et voilà. Et en fait, j'ai trouvé, je ne sais pas d'où ça venait, mais que tout ça, c'était conventionnel, c'était bourgeois, c'était de l'ordre du préjugé. Il y avait du préjugé. Et dès que les gens dégommaient un peu le préjugé, ou sortaient du cadre de la bonne tenue, de la lecture de gare, je dirais, même si j'ai rien contre la lecture de gare,
ouais.
Là, c'était pas de la lecture de gare, c'était la lecture qui était quand même réflexive, qui
ouais.
avait un sujet littéraire.
Ouais.
Il y avait un sujet littéraire qui était au-delà de ce qu'on trouvait, de ce que je trouvais à proximité. Donc il fallait que j'aille chercher ça, que j'avais pas à disposition, ni dans les collèges, à la campagne, du côté de Blaye, voilà.
D'accord. Je me rappelle aussi que tu as évoqué une sorte, ça m'a marqué parce que moi j'ai trouvé que tu avais vu encore autre chose. Tu as parlé de suite dans cet entretien-là chez Auguste au départ, tu as vu qu'on pouvait écrire aussi la pensée.
Voilà. Voilà, alors oui, c'est-à-dire que l'écriture, pour moi, ne sert pas qu'à se distraire.
Voilà. Enfin, et d'emblée, alors.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, t'as parlé très vite de rapport à l'exigence, dont j'ai pas vraiment conscience, en fait, en tout cas à ce moment-là. L'exigence, c'est de rien laisser échapper, en fait. C'est par rapport au savoir. C'est-à-dire, c'est la question du savoir, en fait. C'est-à-dire, soit on se distrait. Moi, je pense qu'il y a deux modes. Soit on se distrait, soit on apprend. Et moi, j'aime bien apprendre. Alors, pas à l'école. J'aimais pas apprendre à l'école.
Eh bien, oui.
Je viens d'un milieu... Enfin, j'ai été élevé dans un milieu scolaire, en fait, puisque ma mère était directrice d'école. Et mon père, lui, était plutôt féru d'histoire, mais un peu à la petite semaine, je dirais. Et donc, il y avait autre chose à voir que tout ça. Et alors, les copains, qui étaient parfois plus avancés ou qui avaient fait des rencontres, je ne sais pas, me parlaient d'auteurs comme, ben ouais, comme Nietzsche, comme Camus, comme d'autres gens, quoi. Enfin, voilà.
Voilà. Donc, à 17 ans, voilà, tu fais la connaissance avec ces...
Voilà. Voilà. Je me dis, je peux pas en rester là. Je peux pas en rester. Voilà, je peux pas rester trop dans l'endroit où je vis. Donc, je vais à Bordeaux. Et quand je vais à Bordeaux, ben, je vois des musiques. Voilà, je découvre Blondie. Je découvre Joe Jackson. C'est la période de la New Wave. Les Doors, les Rolling Stones.
Voilà, parce que toi, voilà. C'est indissociable. C'est quelque chose qui se tisse ensemble, hein, tout ça.
Voilà, les arts, ils sont parallèles, mais enfin, ils s'interpénètrent aussi.
Voilà.
Voilà. Donc, il faut qu'il y ait de la musique. Il faut que dans la littérature, il y ait de la musique. Il faut que dans la musique, il y ait un peu de littérature. Il faut peut-être que dans le cinéma aussi. J'aime beaucoup les adaptations littéraires.
Oui.
J'aime ce que fait Orson Welles avec Shakespeare. J'aime... voilà, là, je voyais ces derniers jours les adaptations de Tennessee Williams, par exemple. Qui est un grand écrivain, voilà, donc qui est adapté par Joseph Mankiewicz dans La chatte sur le toit brûlant ou Soudain l'été dernier. Et le cinéma, c'est rendre compte de la littérature. Et ça m'étonne aussi. Je vois ça assez vite. Et donc, moi, je me sens obligé de travailler tout ensemble. Donc d'être un peu cinéphile, de pas rater. Voilà. Et un peu dans l'exigence d'aller vers les gens qui ont une aura, qui ont une œuvre, en fait. Hein, on va dire ça comme ça.
Ouais. Voilà. Ah oui. D'ailleurs, j'avais trouvé donc cette définition de... Je suis remontée là pour... Parce que tu n'es pas d'accord avec moi, mais j'avais cette sensation que tu avais un rapport à l'œuvre dont tu voulais faire mémoire aussi, parce que tu fais des documentaires aussi, on va le développer ça pendant cette émission. Donc presque ton rapport à l'œuvre des gens qui...
J'étais levé.
Voilà, j'avais l'impression que tu tissais aussi, mine de rien, et c'est pour ça que tu n'es pas d'accord peut-être aussi, mine de rien, quelque chose de l'ordre d'une œuvre. Mais moi j'ai un rapport, je ne vais pas trop parler de moi, mais plutôt anthropologique à la chose. Donc je reviens vers toi. Donc cette définition de œuvre, le français tardif, où est vrai UEVRE, donc
le
où est vrai. Moi, ça m'a.
Voilà. Ouais, l'œuvre, c'est là où c'est vrai.
Voilà.
C'est la question du lieu.
Et où.
Et
voilà.
C'est la question de la vérité.
Voilà. Où, c'est quelque chose du jeu, en fait.
Alors où, c'est. Alors en 68, c'était d'où parlez-vous. Les gens disaient d'où parlez-vous.
Ouais, ouais.
Parlez-vous de la période, de la position du maître.
Et...
Ou parlez-vous librement, en fait.
Ouais.
Alors moi, d'où je parle, je sais pas. Moi, j'ai toujours été assez fasciné par la position du maître. Pas du tout à l'école, mais ensuite, c'est-à-dire tous ces gens libres qui avaient une œuvre, justement, que ce soit Solers, que ce soit Chebel, que ce soit Julien, que ce soit Zach Dansky, que ce soit d'autres gens, les 4 DVD que j'ai fait, en tout cas principaux, ou Gérard Guest, qui n'est toujours pas sorti, il y avait cette espèce d'autorité des gens qui faisaient l'œuvre, et donc il fallait aller questionner, peut-être pour soi-même, avancer dans sa propre pensée. Parce qu'à chaque fois, c'était la collection s'appelait Penseur du 21. Voilà. Comment on pouvait penser le 21. Donc j'avais commencé par faire un film sur Nietzsche avec une douzaine d'intellectuels français, français. C'est-à-dire, je voulais savoir comment la réception était en français. Et ensuite, c'est devenu des DVD. Voilà.
On va faire aussi une sorte d'hyperlien là dans l'émission en parlant d'un entretien qui est disponible sur le net. Walk.
Culture Walk avec mon ami Renaud Garcia.
Il y a 3 ou 4 entretiens avec toi qui sont très.
C'était il y a 10 ans. J'espère pas trop me répéter au bout de 10 ans, mais sûrement que je vais me répéter beaucoup.
Oui, ben c'est bon signe.
C'est ça.
Voilà. Donc là, c'est pour les débuts. 17 ans.
Voilà.
Est-ce que tu peux quand même. Oui. Ah, donc il y avait Camus, Nietzsche. Est-ce qu'il y avait déjà L'autre amant?
L'autre amant, oui, oui, L'autre amant. Ben, à cette époque, beaucoup de gens lisaient les Chants de Maldoror, un peu au premier degré, c'est très grave. C'est, tous les gens un peu dépressifs lisaient L'autre amant. Les poésies, c'est plutôt dépressif. Et non, les chants, c'est plutôt les Chants de Maldoror, c'est plutôt dépressif. Mais il y avait aussi les poésies que je continuais à lire depuis donc, ce temps-là, donc ça ne nous rajeunit pas. Et ouais, les poésies, c'était quelque chose d'ironique. Donc ce qui m'intéresse aussi chez L'autre amant, chez Nietzsche, chez Voltaire ou chez Solers, c'est cette ironie des choses. C'est-à-dire qu'en fait, d'accord, il y a un pathos de fond, mais la littérature nous tire vers le haut. La littérature nous éclaircit. La littérature nous amène vers des chemins dégagés du pathos du 19e siècle, comme Philippe Muret a un peu dénoncé dans son livre le 19e siècle à travers les âges que tu as sur ta bibliothèque.
Voilà, que j'ai pas fini. Mais bon, moi ce qui m'intéresse dans ce que tu dis là, par rapport à cette émission où je m'intéresse au lecteur, au chemin de lecture des gens, c'est que c'est quand même particulier chez toi, et c'est pas particulier chez tous les lecteurs, ouais. Et c'est pour ça qu'on peut faire après des distinguos sur ce qu'est un lecteur, c'est que de suite, en fait, t'es dans un méta, en fait, c'est-à-dire que, voilà.
C'est vrai.
Tu prends ce que dit chacun, mais tu vas la renouer dans quelque chose qui tu nous ça en toi. C'est en ça, je reviens encore sur cette idée de œuvrer. Mais œuvrer, peut-être, c'est œuvrier.
Oui, aussi, ouais.
Voilà.
On est des ouvriers quand on fait un travail, même artistique, on est quand même des ouvriers.
Je ne sais plus à qui je le reprends, un psychanalyste, je ne me rappelle plus son nom, qu'il a pris à quelqu'un d'autre aussi. Hein, mais c'est peut-être plus dans cette chaise-là, de travail. Tu es toujours au travail, par rapport à ça.
Peut-être malgré moi, mais c'est vrai qu'il y a une curiosité permanente. Et on n'a pas envie, même si je suis loin d'être spécialiste de quoi que ce soit... On n'a pas envie de laisser des champs inconnus. On peut s'intéresser à l'astronomie, on peut s'intéresser à la botanique, on peut s'intéresser... Voilà, moi je m'intéresse à tout ça de façon un peu transversale, comme disait mon ami Pascal Hénard, qui nous a quittés malheureusement en fin d'année dernière. Voilà, il y a une transversalité, et il me disait, si tu as réussi un petit peu à les interviewer, alors que tu n'avais un statut ni de professeur, ni d'universitaire, ni de journaliste, si tu as pu les interviewer ces gens-là à Paris, c'est parce que tu avais une vision transversale de ça. Donc tes questions étaient transversales, et donc il me disait-il, ils sont obligés de répondre, puisque ce n'est pas des spécialistes qui viennent... Et voilà. Et donc, il y a une certaine liberté que j'ai ensuite essayé, en redonnant la parole dans ces documents, dans ces DVD, de laisser l'entière parole. Voilà. Voilà. Ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est de laisser l'entière parole, à peu près, quoi.
Après,
l'entière parole. Et donc, alors, pour faire ça, il faut quand même lire les œuvres, et puis ensuite... essayer de trouver une idée qui n'a pas été relevée par d'autres. Voilà, une idée un peu rigolote. Dans le cas de Chebel, par exemple, Malek Chebel, c'était l'érotisme dans les mille et une nuits, et donc Sherazade, donc la question des femmes. Et voilà. Et alors, il avait fait un livre, mais il ne voulait pas trop en parler quand même, parce qu'il était embêté par du côté de sa religion là-dessus. Et voilà, donc les mille et une nuits, lui disait-il, c'est trop dans la connaissance de la sexualité féminine pour que ce soit les hommes qui écrivent ça. Donc ça m'intéressait énormément. Voilà, ça c'était très intéressant.
D'accord. Sous-entendu, oui, l'auteur pourrait être...
C'était sûrement une femme ou des femmes. Par exemple, c'était ça. Voilà. Donc à chaque fois, il y avait des choses qui émergeaient.
Oui, c'est-à-dire que tu ne prends pas pour argent comptant ce qui t'est donné à lire.
Non, il faut toujours aller... parce que moi, je crois que la lecture, parce qu'il faut revenir à la lecture, c'est-à-dire qu'on croit toujours quand, par exemple, des gens disent « j'ai lu Proust ». Alors, ils ont lu Proust, mais enfin, ils ne savent pas trop où se trouvent les passages, hein, parce que si on lit Proust, il faudrait travailler pendant 6 mois, le stylo à la main, tout ça. Donc, à chaque fois, on relit, on revoit, on revient, et c'est une relecture permanente des choses... dans la pensée juive, il se trouve qu'on dit que les livres s'ouvrent Quand on ouvre un livre, ça s'ouvre ça s'ouvre sur un passage dont vous avez besoin dans votre vie, quoi, dont on a besoin dans sa vie. Et j'ai pu vérifier ça un petit peu comme ça, mais sans côté kabbalistique ni rien. C'est comme ça, c'est un peu ludique. Comment on se tirerait le Yiking pour rigoler. Donc, eh ben, y a des livres qui vous parlent, en fait. Hein. Et Edmond Jabès, il disait que la nuit, les livres, en fait, quand on dort, les livres sortent de la bibliothèque et puis font un peu comme des papillons et ils s'envolent dans votre bibliothèque. Et puis, quand vous allez vous lever, ils se rangent comme ça.
Ah, c'est beau. Donc, c'est, voilà.
Edmond Jabès.
Moi, il y a des choses qui me font penser à ce que, quand cette question-là d'ouvrir les livres et de tomber... À la synchronicité aussi. Hein.
C'est une synchronicité.
Tu as employé aussi le mot liberté. C'est quelque chose qui est... Alors, c'est plutôt ce qu'incarnerait le fait d'être libre. Je ne sais plus avec quel auteur...
Liberté. Je ne sais pas la liberté.
Bon, je vais mal rebondir. Je cafouille, c'est pas grave.
La liberté, de toute façon, dans la création, ça me paraît l'essentiel. C'est-à-dire que si on ne sort pas des carcans qu'on nous a inculqués, si on ne sort pas des carcans sociaux, si on ne sort pas des carcans que l'économie, même artistique, propose, à ce moment-là, il n'y a pas de liberté. Ouais. Donc, la question de l'artiste, par exemple, à laquelle je réfléchis, c'est comment, quand il produit une œuvre, comment il ne se laisse pas récupérer ? Comment il peut continuer à développer une liberté, c'est-à-dire être l'envers absolu de Jeff Koons, qui ne produit aucune liberté, à mon avis, mais simplement du plastique accroché au plafond, et qui veut absolument devenir bankable. Voilà. Donc un artiste tel que je le conçois, avec le grand exemple de Cézanne, par exemple, qui ne pense absolument pas à ce qu'il va, à ce qu'il va devenir. C'est-à-dire, il est sur le motif, et il travaille son motif, et il respire.
C'est la trame de sa vie.
Voilà, et il vit entièrement, voilà. En liberté face à son motif. Voilà,
tout ça. Voilà.
Donc la liberté, la liberté, c'est peut-être ce qui permet d'aller plus loin. C'est-à-dire d'avoir conscience qu'elle n'est pas encore... advenu la pleine liberté.
Oui, alors moi je rajouterais, je me permets de revenir plus loin.
Voilà, revenir plus loin, voilà. Oui, on revient plus loin. Mais je pense que pour créer, on est toujours obligé de revenir sur ses bases. On a des bases. Ben, les bases, c'est les grands auteurs qu'on a croisés et qui sont là dans la bibliothèque. Alors voilà, ça peut être la pensée chinoise pour moi, ça peut être la pensée juive, ça peut être le catholicisme aussi, ou les dogons.
Ouais.
Mais voilà, et donc on fait un peu le tour. Alors,
excuse-moi, c'est pas que je veux parler de moi, mais toi aussi tu as une vision un peu anthropologique de tout ça. Alors,
dans l'universel, comme ça.
Mais c'est ça.
C'est l'universalité qui intéresse. Alors, on l'a dans les cultures.
Mais tu peux critiquer aussi cette idée d'une universalité.
Alors, après, il y a mon ami Pascal Hénard, pour le reciter, lui, il pensait qu'il y avait un pôle universel. Bon, ça le regarde, moi, je ne vais pas aller jusque-là. Mais...
Ah, c'est joli, ça.
Voilà, pôle universel. Mais l'universalité, c'est ce qui... Alors, je ne sais pas, moi, c'est ce qui permet une plus grande liberté, parce que c'est l'accueil d'une autre culture. Et aujourd'hui, malgré l'acculturation du monde par l'empire économique et libéral, aujourd'hui, on a quand même accès à tout ça et la liberté de circulation. En Europe, par exemple, on peut circuler librement, ça c'est quand même pas mal. Ça paraît libéral en premier point, mais en même temps, c'est une grande liberté. Quand on va en Italie en voiture, on traverse.
Ouais, mais en fait, excuse-moi, je vais te couper, mais je pense à...
Je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur Radio Polder.
Titouan Lamazou, que je connais très peu, mais je me rappelle, il a dit une chose sur la liberté qui avait énormément régressé justement par rapport à sa liberté de circuler.
Bon, alors peut-être. Oui, le problème, c'est que le monde devient uniforme, je crois. C'est ça le problème.
Et puis dans tous les sens du terme.
Il y a une vie, tout le monde s'habille en jean.
Voilà,
moi-même, aujourd'hui.
Bourgeois. Moi, je suis pas une bourgeoise.
Voilà, c'est ça. Bon,
on va faire une première interruption.
Oui.
On va écouter un morceau que tu as choisi.
Oui, c'est un morceau de Charlie Parker que j'aime beaucoup, qui s'appelle In the Still of the Night, avec le Dave Lambert Quartet. Donc c'est du chant, et puis le saxophone absolument libre, très très libre de Charlie Parker.
C'est parti! Larcher, dont j'ai pas dit quand même comment on avait fait connaissance. Moi j'aime bien faire ça aussi. Et en fait, on peut venir à ta rencontre certains jours, les dimanches, place Saint-Michel, puisque tu as une activité aussi de bouquiniste. Voilà. Depuis quelques années, voilà, ce sont des périodes de 10-15 ans dans ta vie. Donc, tu m'as dit aussi tout à l'heure, voilà, 17 ans, donc la première, je dirais, bifurcation par rapport à ton au monde du. À ton monde, à tes connaissances, je dirais, littéraires. Après, c'était 27 ans, alors ?
Alors, 27 ans, oui, 27 ans. Qu'est-ce qui se passe à 27 ans ? Eh bien, à 27 ans, après avoir... à 27 ans, il y a quand même la rencontre avec d'autres gens comme ça qui m'intéressent. C'est-à-dire, c'est l'œuvre de Philippe Solers.
Oui.
Qui m'intéresse. Que j'estime être quand même un grand passeur des Lumières. Voilà. Qui commence avec la revue telle quelle, en face des cahiers de Lerne, comment s'appelait-il, ça va me revenir tout à l'heure. Donc la revue telle quelle, qui embarque avec lui Bataille, Francis Ponge, Deleuze, Foucault, Barthes évidemment, qui est son ami, Kristeva et Marcelin Plénier. Donc ça, c'est quelque chose que je découvre donc un peu tard et que je vais suivre jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Voilà. Ensuite, je découvre l'œuvre de Joyce, qui est une œuvre, alors là aussi, pivot, si je peux employer ce mot aujourd'hui.
Oh, il est à la retraite.
Dans le 20e siècle. Et puis l'âge pivot aussi. Ouais. Et donc Joyce m'interpelle beaucoup parce que sa liberté de langue dont on parle est quasiment infinie et très difficile. Donc là aussi, il y a une difficulté qui me paraît irrattrapable. Alors ça me fascine. Donc je lis Ulysse, je lis... Voilà.
Mmh. Voilà, c'est des lectures qui te résistent.
Absolument.
Que tu peux creuser.
Il faut que ça résiste. Hein. Si ça résiste pas, c'est pas intéressant. Ou c'est pour se détendre, ou c'est pour... Voilà. Ouais. Il faut que ça résiste. Après, ça fait du bien aussi de lire des choses plus fluides, je dirais, aussi. Mmh. Camus, c'est fluide quand même. Beckett, que t'aimes bien, c'est fluide aussi, je sais pas si t'aimes bien.
Ouais, mais ça résiste aussi.
Ça peut résister, mais enfin, oui. Shakespeare, ça résiste beaucoup.
Ouais.
C'est très difficile.
Ouais.
Voilà, et puis alors, il y en a qui résistent à tous, alors là, c'est Martin Heidegger, le penseur allemand, compromis à un moment donné dans la politique. Voilà, alors ça aussi, ben, c'est le rapport au langage.
Tu parles de Heidegger, je n'ai pas lu, hein, mais je commence un peu à m'y intéresser, parce qu'il avec ce rapport à l'angoisse.
Absolument. Le rapport à l'angoisse qui a déjà quand même, qui est déjà un petit peu, enfin un petit peu, même pas mal, abordé par Kierkegaard dans son concept de l'angoisse.
Mmh, d'accord.
Alors lui, Kierkegaard, il écrit à la fois le concept de l'angoisse et aussi le traité du désespoir. Et le traité du désespoir, c'est pas un traité pour faire l'éloge du désespoir, mais c'est son contraire. C'est-à-dire, le traité du désespoir, c'est on traite le désespoir. Le désespoir peut se traiter.
Ah oui, d'accord.
Alors il se traite par la foi, par la foi dans la vie, très certainement, par la foi. Voilà,
ouais.
par le fait qu'on on peut sortir du désespoir. Et voilà. Et donc Heidegger, lui, c'est compliqué. C'est un philosophe très très complexe qui a beaucoup travaillé sur le langage, qui a beaucoup travaillé donc sur la question de l'être et sur la question de l'habitation du monde.
Mm-hmm.
Ça, on le sait pas trop, mais comment habiter le monde? Mm-hmm. Comment habiter le monde en poète? Donc c'est pour ça que Heidegger, même s'il y a des choses qui peuvent un petit peu fâcher au départ, il y a quand même une obsession chez lui d'habiter le monde en poète avec du langage. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut quand même aller toujours voir du côté des essais et conférences, de ce qu'il dit, de Parménide, de Héraclite, des pré-socratiques, donc. Et ça m'a toujours suivi. J'ai toujours lu Heidegger entre 3h et 4h du matin, à l'heure où tout le monde ronfle.
Mais voilà. Comment... Parce qu'on peut... Tu as eu une formation aussi de... Tu as fait une formation en sociologie.
Sociologie, c'était au départ. Donc anthropologie. Alors c'est vrai que c'est complètement antinomique avec la vision de Heidegger. Hein. C'est-à-dire que l'anthropologie, c'est quelque chose d'humaniste. Et Heidegger, on n'est pas là-dedans. On est vraiment dans des réflexions métaphysiques. Voilà. Dans la sociologie, on est dans le social, on est dans le rapport au social, on est dans le rapport à l'humain, à l'humanisme.
Mais moi, je crois que je dois faire de l'anthropologie transversale et métaphysique.
Ah, d'accord, c'est bien possible.
Mais métaphysique, un brin, juste.
Non, un brin.
Donc, comment tu les as connus, quand même?
Alors, dire qu'au départ, c'est la sociologie qui...
Voilà.
Je me retrouve en sociologie parce que je dois avoir 19 ans et donc on a envie quand même d'aller faire des manifestations contre le pouvoir en place, comme ça se
passe. Déjà.
On a envie de créer une culture générale, peut-être. Et alors, très vite, ça dérive, avec un professeur qui s'appelle Jean-Paul Abribas, ça dérive, on est intéressé par la philo, on est intéressé par la psychanalyse, on est intéressé par un champ. On le suit, lui, un petit peu, avec quelques amis sociologues, et donc on va chercher la philosophie, on va chercher la psychanalyse, on va chercher les arts aussi, du coup, la peinture, la sculpture, tout ça en sociologie, on essaie d'...
ça n'arrive pas comme ça, quoi, c'est pas... C'est à la fois quelque chose du...
C'est surtout des rencontres, en fait, je crois. Ouais. C'est des rencontres qui font que on te dit, mais oui, mais tu connais pas ci, tu connais pas ça. Et ça voilà. Se passe tout le temps comme ça, en fait, les choses. Et alors après, il y a des gens qui, eux, sont dans les tuyaux de l'éducation, de l'université, qui deviennent spécialistes. Et moi, à ce jour, je suis toujours spécialiste de rien, et que je peux parler à peu près de tout, comme voilà, mais en transversalité, comme tu dis. Et donc, de toute façon, littérature, philosophie ou art, c'est des choses qui, à mon avis, pour moi, sont des choses qui doivent t'aider à vivre. Mm-hmm. Si les choses t'aident pas à vivre, ça ne vaut pas une minute d'attention, dirais-je. Oui. Donc il faut que ça t'aide à vivre. Donc la peinture m'aide à vivre, les arts m'aident à vivre, la philosophie, au départ les stoïciens, puis les épicuriens, puis...
Est-ce que tu n'as pas une sensation, je repense peut-être un peu, je sais pas, à la communauté invisible qui n'existe pas aussi, de rechercher une sorte de communauté, justement?
Alors c'est une communauté justement qui n'a pas trop lieu dans mon entourage. C'est-à-dire qu'en fait, il a fallu, pour parler de certains sujets, aller à Paris, monter à Paris, comme on dit, pour pouvoir parler, ou en tout cas se faire parler de ces sujets-là, et de pouvoir un peu débattre autour. Et
ouais, mais est-ce que
ça n'empêche pas que j'ai des copains avec qui je peux parler peu, mais il y en a quelques-uns. Ouais. Dès qu'on a un peu d'exigence sur la philo, dès qu'on a, il vaut mieux aller voir un grand professeur. J'ai suivi les séminaires de Gérard Guest pendant 5-6 ans le samedi après-midi. C'était un séminaire donc sur Heidegger à côté de boulevard Montparnasse. Voilà, donc moi j'ai toujours essayé d'apprendre des choses, et là j'avais l'impression en plus avec Gérard Guest que la pensée se produisait au fur et à mesure. D'aller voir à la... Parce que pour moi, à la fois, ces gens comme ça qui sont puissants, ils sont à la fois dans la marge. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est des gens...
Mais ils sont
dans la marge. Heidegger est dans la marge, Proust est dans la marge, enfin voilà.
C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'autre lieu...
Et malheureusement, malgré ses apparitions médiatiques fréquentes, est quand même dans la marge. Parce que
dans une certaine marge.
En tout cas, si on prend sa revue, dans sa revue, il y a quand même une exigence énorme avec des gens très intéressants, avec
que
des gens très vivants, parce que c'est vivant. Mmh. Parce que la littérature, si c'est... moi, ce que j'ai aimé chez Solaire, c'est pour en reparler une dernière fois, c'est qu'il est vivant. C'est que, alors déjà, il est vivant, c'est une chance, et en plus, dans tout ce qu'il opère, en littérature, c'est vivant. Donc, ne m'intéresse que les gens, finalement, qui ont... Moi, j'essaie de faire ça à mon tout petit niveau... qui sont dans la vie de l'écriture,
dans le vif
de la littérature, pas dans la vie littéraire, dans le vif, c'est tout à fait juste, dans le vif du sujet, dans le vif de l'objet,
qui sont dans le souffle aussi. Quand tu penses que, tu vois, là, on est un an après, l'année dernière, j'ai fait un enregistrement avec Jean-François Chapelle qui nous parlait de Filiou, qui disait la poésie, qu'est-ce que c'est? C'est le souffle. Donc, puisque c'est vivant, c'est parce que il y a l'insufflation et...
Alors ça c'est très
présent. Il n'y a pas l'uniforme.
Voilà. Et ça, c'est très présent chez les Chinois. Parce que chez les Chinois, c'est une notion centrale. La notion du souffle.
Mmh. Oh, ben alors, voilà, Filiou, mais aussi
c'est
un peu
ça.
C'est
pour ça qu'on les voit dans les jardins, en train de faire du tai chi. C'est le souffle. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils vont les lettrés vont dans la montagne. Malheureusement, comme il fait un peu froid dans la montagne.
Tu pourrais nous parler de François Julien aussi.
C'était une bonne transition.
J'aime son œuvre. J'aime beaucoup. Voilà. Donc.
François Julien, ça a été ça. Hein. Ça a été l'envie aussi d'en découdre un peu avec la Chine depuis ma position provinciale. Donc je suis allé l'interviewer. Enfin. Je l'ai interviewé et il a répondu, c'était vraiment très bien. Donc on a refait un peu un parcours de ce que la Chine a influencé un peu. Comment la Chine s'est déployée un peu, la pensée chinoise s'est déployée un petit peu en Occident. Donc c'était le sujet de disponibilité de la pensée chinoise. Voilà, c'est la Chine. Mais la Chine, j'ai toujours été fasciné par la Chine. Mon père m'a offert un dictionnaire de chinois quand j'avais 18 ans, que j'ai pas forcément d'ailleurs travaillé, mais que j'ai toujours...
Tu sais un peu lire le chinois ?
Wo she fa guo zhen. Ni she fa guo zhen.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire je suis chinois et tu es chinois. Je suis français, tu es française.
Voilà. Mais tu lis un petit...
Wo she fa guo zhen. Je lis pas du tout. Enfin, j'ai pris des cours avec les amis du dragon.
Tu déchiffres un peu. Tu déchiffrerais un peu.
Je pourrais déchiffrer, c'est pas si compliqué que ça. Et en tout cas, donc là, l'accent que j'ai fait, c'est vraiment pitoyable, mais c'est pas grave.
Ouais. C'est alors, tu t'es intéressé aussi
à la calligraphie, c'est-à-dire, c'est par la calligraphie. C'est-à-dire, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que là, ce qui est bien chez les Chinois, c'est qu'il y a un mélange tout de suite entre la calligraphie, donc la représentation picturale, et la lettre. Et la poésie, et donc les arts, et tout ça. Donc voilà. Donc, le lettré chinois, je crois que j'avais déjà dit il y a 10 ans, mais j'aurais dit, le lettré chinois, c'est celui qui n'a pas de barrière entre ses spécialisations. C'est-à-dire, il n'y a pas un poète, il n'est pas poète, il n'est pas peintre, il n'est pas lettré, il n'est pas écrivain, il est tout en même temps. Voilà.
Mais comme autrefois le lettré de notre civilisation occidentale, non ?
Oui.
Autrefois, c'était même si c'était destiné à une certaine élite et qu'aujourd'hui, on peut ouais. tenter d'aller vers cette philosophie de vie sans être bourgeois.
Voilà.
D'ailleurs, les bourgeois, est-ce qu'ils y vont, en fait,
Maintenant, de toute façon, il y a un bien-être à la chinoise ou à la orientale qui est un peu systématique, qui est très récupéré par la bourgeoisie. Bon, voilà, peu importe. La Chine, c'est le souffle d'abord, et c'est quelque chose qui paraît. Alors, c'est un peu exotique, mais là aussi, ça aide vraiment à. Enfin, je sais pas, chaque fois que je retourne au chinois, je respire mieux. Chaque fois que je retourne au chinois, à la pensée chinoise, voilà. Donc, les poètes chinois, Li Bai, et les autres, j'oublie les noms comme ça, mais voilà.
Ouais. C'est un détour pour mieux revenir.
C'est un détour pour la Chine. D'ailleurs, c'est un des livres de François Julien, ça s'appelle Le détour et l'accès. Et donc, voilà, avec François Julien, on a fait ça, et c'était intéressant, c'était pas...
Super. Voilà. Super. Donc, on va continuer à dériver avec toi, Jean-Hugues. D'ailleurs, j'ai appris là en lisant un livre que dériver. Après, j'ai pas retrouvé d'Hervé fou.
Hein?
Ancien français d'Hervé fou.
Fou. D'Hervé.
Ouais. Ah. D-E-R-V-E. Ah ouais. Ouais. Chez le pape dans son histoire de la littérature française.
Ouais. La folie.
François Julien, on essaye de faire chronologiquement, mais après peut-être qu'on pourra se dégager du chronologique aussi. Tu l'as connu plus tard que Solers.
Oui, c'est même Solers qui m'a affilé son numéro pour dire les choses. Comme ça, c'est fait.
Bon.
Mais c'était en 2006, ça. Hein, et donc, voilà. Non, mais, François Julien, ce documentaire a intéressé les gens. On a cru que j'étais un spécialiste de la pensée chinoise et on voit bien ce que je peux en dire aujourd'hui que c'est pas le cas. Mais en tout cas, le document s'est fait.
Oui,
en tout
ton cas, intérêt voilà. porte sur des gens qui ont fait œuvre. Donc
et qui font encore parce qu'ils sont vivants en plus. Sauf Malek Chebel, malheureusement, qui nous a quittés il y a 2 ans. Et ça, c'était une grande peine parce que c'était un ami qui venait justement me voir sur mes points de vente. On était très amis et voilà, bon, ça c'est Malek.
D'accord.
Donc, c'est pour Malek, évidemment.
On peut dire quand même aussi, c'est ça que je trouve beau, c'est que ton histoire de lecteur t'a fait sortir vraiment du strict format de la lecture et aller à la rencontre d'autres. D'autres auteurs, et puis même ça a eu des incidents sur ta vie, puisque quand même ton activité aussi de bouquiniste, c'est.
Ça m'oblige à lire un peu, oui, ça m'oblige à lire, en tout cas, ça me fait récupérer des livres.
D'ailleurs, je précise que j'ai trouvé un exemplaire la dernière fois chez toi de Frédéric Roux, un auteur que trop peu lu, trop peu connu, que je lis avec une grande joie.
Ça, c'est bien. La joie, c'est très important dans la lecture, comme on a vu.
Ouais, et c'est rare.
Mais oui.
D'ailleurs, tu as peut-être des souvenirs comme ça de jeu. Est-ce que tu as de joie et des choses qui t'ont fait, non qui t'ont rassuré quant à l'humanité.
Ben oui, paradoxalement, quand j'ai lu Candide de Voltaire, où Candide, il lui arrive des aventures absolument horribles et tout ça, mais c'est toujours traité avec une ironie. Voltaire a 60 ans, il est en pleine forme. Et Candide, c'est un peu... Voilà, quand Candide, il lui arrive... il est un peu naïf, bien sûr, comme son nom l'indique. Et il lui arrive plein d'aventures. Il perd Cunégonde, il perd Pangloss, il perd tout ça. Puis alors, comme par magie, ces gens-là, il les a perdus. Mais en fait, ils reviennent, un peu comme dans un dessin animé. C'est déjà ça, très drôle. Et à la fin, il finit par cultiver son jardin. Donc tout ça, ça a été, pour moi, c'était ça. C'était ça, un peu le chemin à suivre.
Ouais,
supporter
ouais.
Les aventures qui nous arrivent, supporter les affres, les tragédies parfois, les chaos, les traumatismes, mais on sait qu'il faut toujours revenir à cultiver son jardin.
Ouais.
Donc ça c'est ça. Et puis après il y a le jardin d'Épicure, enfin le jardin comme ça.
Ouais.
Voilà. Donc la littérature peut-être c'est enfin en tout cas la lecture c'est une forme de... la lecture dans un jardin, déjà, c'est bien. Quand on lit dans un jardin, c'est autre chose que de
lire
dans une
pièce. Oui, puis je reviens sur quoi je t'avais amené. En fait, c'est une sorte de, quand je disais rassurer sur l'humanité, c'est-à-dire que tu rencontres un...
Voilà. Tu rencontres une
sorte de mameté.
Oui, des alter-ego.
Voilà.
Les auteurs, c'est tes alter-ego. Si tu sais bien les choisir, si tu sais bien les voir, c'est tes alter-ego. Et puis un jour, toi, tu essaies un peu de gribouiller les choses comme ça.
Mais alors, justement, est-ce qu'il y en a que tu n'oserais pas rencontrer ? Moi, je sais qu'il y en a que je n'oserais pas rencontrer.
Moi, tous ceux que j'oserais pas rencontrer, en fait, je les ai rencontrés.
Voilà, c'est super.
Solaire, j'avais un peu.
C'est super.
Vu son aura, je savais pas trop. Julien, c'était pareil, voilà. Et puis après, non, je regrette de ne pas avoir rencontré, par exemple, Marcel Conche, un grand philosophe. Je regrette de ne pas avoir rencontré Paul Veyne. Je regrette de ne pas avoir rencontré Marcel Détienne, qui était un grand spécialiste de Dionysos et de la Grèce, et qui, malheureusement, quand je faisais mon projet sur Nietzsche, enfin, il m'avait répondu une très belle lettre en disant « je peux pas, mais sur Dionysos peut-être ». Donc voilà, donc il y a des gens que... c'était toujours des gens très exigeants, dont l'œuvre, dont la dimension me dépassait complètement, mais que j'avais envie de rencontrer pour apprendre, cultiver mon propre jardin déjà.
Voilà. Enfin. Bon, Jean-Hugues, je vais un peu te couper. On va passer au deuxième morceau que tu as choisi.
Alors, le deuxième morceau, il s'appelle Burning Down the House. C'est par un groupe que j'écoute depuis très longtemps, dont le leader est David Byrne. C'est les Talking Heads. Et ça, je n'arrête pas d'écouter ça depuis des années.
Voilà, c'est parti.
Who got a match? Watch out, you might get what you're after. Ooh, baby, straight
d'écouter donc David. Non.
David Byrne.
David Byrne. Voilà.
David Byrne.
Tu ne parleras pas du livre que tu viens juste d'acheter.
J'ai acheté. Mais
que tu vas dévorer.
Oui, oui, oui. C'est un livre qui est joli parce que c'est un livre tout orange avec marqué Qu'est-ce que la musique ? Et avec un petit logo de haut-parleur. Et
tu es passionné par ce gars aussi, en fait.
Enfin, bon, moi, j'ai eu la chance de le voir en concert avec mon ami Jean Laurenti. On a été le voir aux Nuits de Fourvière en 2008. Hein, et c'était juste formidable. C'est un groupe new-yorkais qui, moi, me paraît être le plus atypique des groupes new-yorkais. Enfin, en tout cas, des groupes américains. Peut-être même des groupes mondiaux. Ben voilà, c'est autre chose. C'est après Iggy Pop, après Bowie, après Lou Reed, ben il y a cette musique-là qui commence au milieu des années 70 et qui est une musique qui est un peu comme ce qu'a fait Peter Gabriel déjà, mais plus poussée que Peter Gabriel. C'est une musique du monde, donc qui inclut des chants soufis, qui inclut des percussions africaines, qui inclut voilà. Mm-hmm. Et ça fonctionne très bien et c'est très généreux et c'est très voilà, David Byrne, c'est quelqu'un que j'aime bien. J'ai eu la chance de le voir à moins d'un mètre. et quand il est arrivé sur scène, il a dit, écoutez, évidemment, vous pouvez vous lever, contrairement à ce qu'avaient dit les organisateurs. Vous pouvez prendre des photos. Puis surtout, vous pouvez venir danser, contrairement à ce qu'ont dit les organisateurs. Donc, nous, on était contents, voilà.
Ouais, ouais.
Moi, je pensais jamais voir David Byrne. Et c'était un grand moment, voilà. Donc, c'est pour ça que Burning Down the House, c'est un peu la maison qui brûle. Et malheureusement, c'est encore d'actualité avec ce qui se passe en Australie et ailleurs. Voilà.
Donc, ouais.
Burning Down the House, la planète est en train de brûler. Et on va essayer de passer contre les flammes.
Oui. On va continuer à côté des flammes, pas à côté des femmes, alors.
Bon, si on commence sur la question femme, on ira sur les women de Kooning tout à l'heure.
Ah ouais, génial parce que juste tu me dis ça, je suis sur une question que je m'étais recopiée parce que tu t'intéresses aussi un petit peu, peut-être beaucoup, à l'hébreu. Et je suis sur.
Oui.
Moi, je m'y étais intéressée grâce à une émission radiophonique. Et là, je suis sur le terme manhe, je ne sais pas si je le prononce bien. Qu'est-ce que c'est ?
Parce que c'est manhe. Ouais.
Et je viens de tomber sur un truc latin. Man, M-A-N-E. N-E, donc Manet.
C'est un peintre, ça, Manet.
Là, ah oui, mais en latin, c'est le matin.
Le matin, ah oui.
C'est génial.
Alors, c'est quoi
Voilà.
Ah oui.
Donc ça veut dire qu'il y a une transversalité. Non, mais de toute façon, on le sait. Enfin, moi, je suis une... Mais quand on sait rien comme ça, on peut s'étonner avec joie encore. Ça fait deux fois.
Mais on sait pas, en fait. Il y a des choses qu'on sait, qu'on oublie, qu'on sait pas.
Donc, qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que c'est ? On reprend sur la question...
Non. Mais alors, après mes études de sociologie, j'ai pris le risque absolu de faire des études de théologie.
Ah bon ?
Je ne sais pas si on peut dire ça à Paul Bert, mais je le dis quand même.
Ah ouais, bah,
donc, j'ai fait un peu de théologie, donc j'ai fait un peu de grec, j'ai fait ce que j'avais très mal fait quand j'étais à l'école, en primaire, enfin, au début du collège. J'ai fait un peu de latin, j'ai fait un peu de grec, et j'ai fait de l'hébreu.
D'accord.
Et ça m'a complètement fasciné d'être au milieu de ces gens qui étaient très concentrés dans la prière. Voilà, donc j'avais fait un petit UV sur Duns Scott, une exégèse du livre de Ruth dans la Bible. Voilà, donc...
Ah oui, quand même, ça voilà. Tu ne me l'avais pas dit.
Je l'avais pas dit, je ne peux pas tout dire d'un coup, mais... c'est-à-dire que moi, après avoir rejeté tout ça vers mes 14 ans... Une quinzaine d'années après, j'ai besoin d'y revenir, surtout par le biais d'un livre qui s'appelle Le génie du christianisme de Chateaubriand.
D'accord.
Qui est un super livre qui explique un peu la raison du christianisme de façon généalogique depuis Homère jusqu'à aujourd'hui. Donc moi j'ai trouvé ça très très bien écrit, très intéressant et qui reprenait tout ce qui était du christianisme dans le meilleur de ses aspects.
Alors je vais te demander quelque chose, est-ce que tu prends des notes quand tu lis ?
Il faudrait que j'en prenne plus.
Mais ouais, c'est ça. Ouais.
Il faudrait que j'en prenne plus. Je pense que de toute façon, si on ne prend pas de notes, on n'est pas un très bon lecteur. Mmh. Et que quand on écrit après, il faut quand même qu'on... Enfin, en tout cas... Qu'on, ouais, moi j'ai, depuis des années, j'écris beaucoup de... Enfin, j'ai des carnets, des cahiers avec beaucoup de citations. Peut-être plus de citations que de phrases personnelles, d'ailleurs.
Voilà,
donc voilà, je voudrais faire un florilège un jour, peut-être.
Mais après, en termes de phrases personnelles, on va parler, peut-être que tu en liras un morceau plus tard, parce qu'on va encore dérouler des choses, mais tu as produit quand même aussi un livre, 2019, là, donc ça vient d'arriver.
2019,
Là, on va directement à la peinture.
Ben oui. Alors, ce qui m'a intéressé, avant de démarrer sur le livre, ce qui m'a intéressé aussi dans le rapport à la religion, ce que j'ai aimé, moi, pourquoi je suis revenu après le génie du christianisme un peu sur la question de la religion, c'est qu'il y a les arts. Et qu'on ne peut pas se passer, contrairement à ce que dit Michel Onfray, on ne peut pas se passer de la question des arts. Les arts, sans la Bible, on n'y comprend rien.
C'est un lézard.
C'est un lézard. Voilà. Donc moi, je suis très très intéressé par la question des arts. Et je suis un chrétien. Je ne sais pas si je suis un bon chrétien, certainement pas. Mais en tout cas, je suis moi, j'aime les arts. Voilà. Et Nietzsche disait, d'ailleurs, qui n'était pas forcément un très bon chrétien non plus, il disait... qu'en fait le philosophe doit être artiste. S'il n'est pas artiste, c'est pas un bon philosophe. Voilà. Donc ça veut dire que il doit être en tout cas il doit faire de sa vie une œuvre d'art, en quelque sorte.
Ah ben tu vois, tout à l'heure tu me disais non, il faut que ça soit Nietzsche qui te le dise.
Alors, est-ce qu'on peut faire à la fois de sa vie une œuvre d'art et pour faire une œuvre? J'ai pas fait d'œuvre. Je pense que je suis pas capable d'en faire une. En tout cas,
mais c'est dans un sens.
Mais par contre, faire de sa vie une œuvre d'art non plus. Enfin, faire de sa vie une œuvre d'art, c'est-à-dire, ça serait souffrir le moins possible. Je dirais ça. Et dans le cas de Nietzsche, c'était pas ça, puisque lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. On voit ça dans ses correspondances. Donc la question de la peinture, elle remonte pour moi au fait qu'avec mon père, en fait, mon père qui est un peintre amateur, me fait copier un tableau de Cézanne, les joueurs de cartes. Et les arcades, les régates à Argenteuil de Monet. Donc tout de suite, je m'aperçois dans ces moments-là, dans ces heures que je passe à faire ces copies, il y a une sérénité totale, il y a une plénitude, il y a quelque chose de très très de sortie du temps, sortie du temps comme pour encore plus se remettre dans son temps à soi en tout cas. Et voilà. Et donc après le temps passe jusqu'en 2019. Donc en 2019. Mon éditeur Jean-Paul Broussac, enfin un éditeur qui s'appelle Jean-Paul Broussac, qui tient la librairie Olympique.
Voilà, au Chartron, à Bordeaux.
Au Chartron, à Bordeaux, qui est un grand libraire.
Grand lecteur.
Grand lecteur, grand artiste et petit éditeur, hein, puisque je ne fais pas des collections. Voilà, donc Jean-Paul Broussac, il décide de publier Le Rire de Kooning. Parce que c'est un grand connaisseur de la peinture américaine, des arts, de la théorie des arts. Et voilà, donc on sort ce livre. Et alors, donc ce livre, moi je vais commencer à l'envers ce livre.
Allez.
Je vais commencer par les remerciements. Donc voilà, donc ce livre, il a été possible aussi par mon ami Sandrick Lemaguère, avec qui j'avais fait la revue Sprezzatura.
Voilà.
La revue Sprezzatura à partir de 2009, en compagnie de Métis Navarro.
Tu vas un peu plus nous en parler juste après. Hein,
voilà, d'accord. Voilà, et puis après, ben, je remercie, je voulais évoquer Jacques Bernard, Camille Bousquet, Cécile d'Allemagne, Alexis Berdoula et Muriel Deschaux, qui ont une bonne, très bonne réception de ce livre. Voilà, donc ça, c'est ça. Alors... l'histoire du rire de Kooning, bah, c'est cette photo que je trouve dans un catalogue où de Kooning rit dans un terrain vague. Et donc, c'est pour ça qu'on a appelé le livre comme ça, Rire de Kooning. Il se trouve que ces femmes aussi sont toujours en train de rire avec leurs dents, leurs grandes dents. Ces dents qu'il va lui-même découper dans des magazines et qu'il va coller sur la toile. Mmh. Voilà, donc il y a du rire. Chez de Kooning, il y a du rire. Et voilà. Donc, la peinture de Kooning m'a interpellé sur la question des women, évidemment. Mmh. C'est-à-dire, à un moment où l'expressionnisme abstrait américain fait plutôt de l'abstrait, lui, il figure ces women au front de la peinture. Il les amène au front de la peinture. Et elles sont frontales, et elles tiennent tout le tableau, elles vous regardent, un peu comme si les demoiselles d'Avignon arriver avec une seule... C'est un peu la répression que j'avais. Une seule femme arrive comme ça. Donc la Woman 1 vous regarde, vous fait peur, vous fait rire, vous emmerde. Voilà. Et donc c'est très très vivant. Et ses peintures sont très colorées. Mmh. Ses peintures sont... Voilà. Donc pourquoi... je me suis posé la question. Pourquoi... pourquoi ces femmes sont au front de la peinture. Alors j'y réponds un peu dans la troisième partie du livre.
Ouais.
Voilà, je les décris, je m'amuse avec, je fais jouer des citations de Kooning. Voilà.
Ouais, ouais. Avec des illustrations aussi de voilà. des reproductions.
Voilà, des reproductions. Et puis je décris après une sculpture qui s'appelle Standing Figure que de Kooning a commencé à faire. Une forme de peut-être 20 cm sur 10. Lors d'un séjour à Rome, on lui prête un atelier. Donc il fait cette sculpture en terre. Et il va la décliner de 1969 jusqu'en 84. Elle va finir 6 mètres de long, 2 mètres de haut. Et en 2012, elle est exposée dans le cadre de la FIAC. Et à ce moment-là, moi je crois qu'il y a une sculpture de Kooning qui est là, qui va rester dans les jardins des Tuileries. Non, c'est juste pendant la fête. Et donc cette sculpture me donne envie de la parler. Voilà. Donc, ouais, je la parle. Voilà. De fil en aiguille, ce texte finit. Enfin, ce texte est relayé par un site. Et puis voilà, ça fera aussi l'objet d'une publication dans la revue L'Infini en 2014.
Oui.
Voilà. Donc les choses mettent du temps. Pour, voilà.
Oui.
Avant de faire ce livre en 2019, il a fallu tout ça.
Oui.
Voir si ce qu'on disait n'était pas trop, trop léger ou trop abscon.
Mais de toute façon, oui, ce temps. C'est, voilà. C'est une manière de voir les choses qui te va aussi. Tout à l'heure, avant l'émission, on parlait aussi de blanc, de silence.
D'ailleurs, on va peut-être en faire un de 15 secondes.
Allez. Voilà.
Merci.
Donc, d'ailleurs, en préparant l'émission, là, oui, la parole médiatique.
La parole médiatique.
C'est quelque chose, en fait, ça m'intéresse. C'est quelque chose, moi, qui me travaille aussi. Donc, ça m'intéresse que tu, je dirais, achoppes aussi sur cette question.
Ben, moi, j'ai toujours eu l'impression, quand même, que les médias, c'était un peu des broyeurs de personnalité. Ouais. C'est la première chose qui me vient. Moi, je ne suis pas du tout aguerri à l'exercice que je fais aujourd'hui avec toi, mais. Comme c'est très sympathique, ça passera, ou ça passera pas. Et voilà.
Après, oui, tu préfères interroger toi, l'autre.
Voilà. Moi, je me suis. Ouais,
qu'être cuisiné comme ça.
Voilà. Mais cuisiner, c'est bien parce que c'est une bonne cuisine, vraisemblablement. Non, moi, j'ai beaucoup interviewé. Et puis là, comme il y a le livre qui est sorti, ben, on me pose pas mal de questions. Et puis, c'est aussi un peu avancé dans l'expression, dans l'oralité, après l'écrit, un peu, faut présenter comme ça. Et surtout, c'est hors tout cadre commercial. C'est-à-dire que la plupart des auteurs vont vendre leurs livres parce que leur éditeur, moi, mon éditeur, il en a strictement rien à faire. Mmh. Il trouve qu'on en a trop vendu.
Oui, vous allez faire une réédition, tu m'as dit.
Et voilà, on va faire une troisième.
Augmentée.
On a fait déjà c'est la deuxième. Mmh. On fait une troisième édition augmentée d'un texte qui s'appelle L'Aquatique de Kooning. Qui parle un peu de la dernière période où vraiment les women deviennent de plus en plus fluides, quitte à disparaître comme ça, et comme il vit.
Ça va sortir quand ?
Ça va sortir dans un mois et demi maximum, dans un mois à peu près.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Donc l'aquatique de Kooning.
Donc on revient aussi sur la revue Sprezzatura.
Alors Sprezzatura, Cendric Lemaguer, mon ami de longue date, avec Métis Navarro. Donc Cendric Lemaguer, brestois, on se retrouve lors d'un séminaire donc de Gérard Guest à Paris. Et puis on se dit, on a peut-être des choses à dire, on peut peut-être constituer quelque chose. Donc on a constitué cette revue qui a vu 6 numéros. Donc c'est une revue un peu exigeante. Exigeante mais à la fois très éclatée, c'est-à-dire qui va, on peut pas parler de politique, mais qui a des formes qui va, on va dire, du Talmud au commandant Marcos. Hein. Donc, c'est quand même assez large comme champ. Voilà, donc une grande liberté. Il y a 7 intervenants principaux. C'est une revue un peu confidentielle, que moi j'ai considérée comme un atelier d'écriture. C'est-à-dire qu'à partir de 2009, je gribouillais des choses un peu. Enfin, évidemment, je préparais les entretiens que je faisais. Et là, je me suis dit, je vais constituer des textes. Des textes un peu formatés, pour revue, 7-8 pages, comme ça. Donc, ce qui était bien, c'est que je savais que j'allais être édité en plus. Contrairement où tu l'envoies une revue. Et là, on faisait partie. Donc là, c'était sûr que ça passait. Et puis voilà. Et puis, par un hasard ou pas, toujours Solers a récupéré sans me le dire. Et tant mieux. Mon texte Virtuosité du cœur qui était sur Bordeaux, sur les femmes, sur Bordeaux, sur le taoïsme, sur les dogons, enfin sur plein de choses. Et donc, ça a été mon premier texte dans une revue nationale, enfin, je dirais, voilà, chez Gallimard. Voilà. Alors, ça met du temps, tout ça. Et donc, cette revue, elle a été active. Et aujourd'hui, elle va devenir plutôt maison d'édition de revue. Voilà, elle va devenir maison d'édition. Et donc il y aura des textes qui vont sortir. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. C'est mon ami Sandrick qui va s'occuper de ça principalement.
D'accord. Donc tu viens aussi d'employer un terme, c'est quelque chose, je sais, qui te. Tu t'intéresses de près, les dogons.
Ah, les dogons.
Est-ce que, culturellement, quel objet culturel tu peux nous faire arriver dans ton intérêt pour les dogons?
Alors les dogons,
ça serait peut-être plus des choses plus plastiques.
Voilà, les dogons, ça part quand même de cette revue qui s'appelle Le Minotaure, où Michel Léris fait un texte sur les dogons avec Griot, Léris, ils vont faire le Dakar Djibouti et ils croisent le peuple dogon et là ils voient qu'il y a une cosmogonie, qu'il y a un univers que les occidentaux n'ont absolument pas remarqué avant eux, mais qui est une puissance symbolique très très forte. Voilà. Donc l'Afrique, c'est formidable. Alors, l'Afrique, on voudrait comme ça écraser, colonial, qu'on a écrasé colonialement. Voilà.
Mais c'est un endroit particulier, l'Afrique.
Alors c'est le Mali. Voilà. C'est le Mali, c'est la falaise de Bandiagara. C'est des masques particuliers, c'est des défilés funéraires aussi très singuliers, avec des grands masques qui font aussi 6 ou 7 mètres de haut. Voilà. Et alors après Griol, et tout ça, il y a Rouche qui parle au cinéma avec Germaine Déterlin, qui lui va effectivement filmer les dogons de tout près, donc on a des super documents. Voilà, il y a une esthétique aussi, hein, c'est-à-dire cette terre ocre où le renard pâle vient poser ses pattes en divination. Il y a toute une ritualisation. C'est une vraie religion en tant que telle, quoi. Voilà.
Oui. Et on imagine que tout ce qui est art et religion est encore relié là-bas,
complètement.
Incarné, quoi. C'est pas dans la marge, comme dans notre.
Du tout. Comme disait Nietzsche, enfin, Dieu est mort, mais pas là-bas, quoi. Il y a encore quelque chose de l'ordre. En tout cas, de l'ordre de la. Il y a un rapport à la divinité, il y a un rapport au sacré.
Oui.
Il y a quelque chose de sacré qui nous est très difficile de comprendre parce que c'est des. Voilà, c'est traditionnel. C'est, voilà. Donc les dogons. Les dogons, on a envie d'aller en 2028 pour le prochain Sigui. Voir un peu ce qui va se passer. C'est pas très loin, c'est dans 8 ans.
T'es optimiste.
Je crois que c'est 2028 si je me trompe pas. Et donc l'Afrique aussi très importante parce que dans l'Afrique il y a des corps, il y a de la joie, il y a de la danse, il y a de l'intelligence, il y a du regard, il y a quelque chose qui nous éclaire depuis ce continent noir, ce continent qu'on voudrait sombre, il est pas si sombre que ça. Et il y a des cultures et il suffit de voir les masques. Pas que des dogons bien sûr, mais d'autres, quoi. Voilà, donc vive les dogons.
Bien. Bon, très cher Jean-Hugues, nous allons passer le dernier morceau de l'émission et après on va faire un quatrième volet, exceptionnellement, mais c'est super.
Quel honneur.
Alors, nous allons donc écouter.
Alors, nous allons écouter. Marilyn Horne dans un morceau qui s'appelle Niel Profondo Cielo Mondo de mon musicien préféré, c'est-à-dire
Vivaldi.
Antonio Vivaldi. Donc, avec une résonance de Venise.
C'est parti! Juste avant de cette parenthèse sonore, nous parlions de Dogon. Nous allons nous envoler et quitter cette terre d'Afrique. Et nous allons continuer à survoler ton univers littéraire. Alors moi, ce que j'aime, c'est mal dit, mais bon, c'est très bien que ça soit mal dit. Je reviens pour cela à notre entretien préalable là, qu'on avait eu chez Auguste, et j'aimerais que tu ricoches sur des noms d'auteurs comme ça que tu n'as toujours pas évoqué là. Par exemple, ça tu m'en avais même parlé avant peut-être, Roth.
Ouais, Philippe Roth. Ouais.
Bah, Philippe Roth, De Beauvoir, alors ça va partir dans tous les sens. Pasolini, Sade,
Zagdansky.
Merci, excuse-moi.
Oui, ça c'est mon ami.
Voilà. Allez, on ricoche.
Stéphane.
Alors on commence par où tu veux. Clac, clac, clac.
On va commencer, je sais pas. Ben, Philippe Roth, évidemment, c'est un auteur dont je ne rate aucun livre depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Il a écrit notamment un livre un peu exceptionnel qui s'appelle Opération Shylock, c'est-à-dire sur la question du double, de l'écrivain et du double. C'est un écrivain qui ironise beaucoup son milieu d'origine, son milieu juif américain d'origine. C'est quelqu'un qui parle beaucoup d'érotisme. Mmh. C'est un auteur qui justement est... alors il y a deux facettes dans son œuvre, hein. Il y a une facette sombre et une facette plus claire, plus comment dire ça, plus gay, quoi. Voilà. Donc moi je préfère la facette effectivement plus solaire de Philippe Roth. Il faut lire tous ses livres et à chaque fois il y a une énergie, il y a une précision, il y a une ironie aussi de ça, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, de sa position d'écrivain, parce que quand dans l'opération Shylock, c'est l'histoire d'un double qui s'appelle également Philippe Roth, qui est en Israël, qui est antisémite, et voilà, et donc il l'appelle, et il lui dit, voilà, mais Philippe Roth, oui, c'est moi, je m'appelle Philippe Roth, tout ça. Donc il sait pas trop comment démêler cette histoire de double, cette imposture de personnage, et voilà, et donc c'est très drôle, c'est assez complexe, et des moments, d'ailleurs, on a un peu du mal à s'y retrouver dans les films de Roth, qui sont très très complexes.
T'as dit dans les films.
Dans les films, oui, c'est ça, les films, les livres, ça se mélange, tout ça.
Ouais, c'est beau. Ouais. Bien, on continue. Alors évidemment, on survole, on est d'accord, hein, qu'on pourrait faire peut-être des heures juste sur un écrivain. Mais bon, de Beauvoir aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de femmes, mais bon, peut-être que...
Malheureusement. Beauvoir, moi j'ai lu essentiellement ce qui m'intéressait, c'était son manifeste, hein, le deuxième sexe, que je lisais quand j'étais à Nancy, en régimenté, dans une histoire pitoyable d'obligations militaires. Et donc, je lisais...
Oh,
je...
à vous, tu regrettes. Non,
je... Oui. Je regrette. On parlait de l'uniforme au début. Hein.
Voilà.
Non, aucun uniforme, si possible. Sauf le jean, parce qu'il est obligatoire, celui-là. Et donc, Beauvoir, oui, Beauvoir, c'est justement... Beauvoir, c'est la parole féminine, la liberté par rapport à Sartre...
Surtout recontextualiser voilà. Déjà.
Et puis la féminité, parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire que la question de la femme aujourd'hui, il faut faire attention à ce qu'on dit, hein, quand on est un homme, mais il y a à la fois une revendication et à la fois un maintien, je trouve, moi, de sa féminité, hein, cette image où elle est de dos nue.
Surtout à cette époque.
C'est à la fois un peu provocateur et c'est à la fois très féminin. C'est-à-dire voilà, c'est gracieux, voilà. Donc c'est une grande intelligence. Le Beauvoir, c'est une belle vue. Le Beauvoir, évidemment. Donc Simone de Beauvoir, elle nous permet de comprendre comment l'homme et la femme devraient coexister le mieux possible, sans tension. Avec un respect mutuel, évidemment. Moi, j'ai été élevé par des femmes et ça s'est toujours bien passé, on va dire. Voilà. Moi, j'ai toujours été accompagné de femmes dans ma vie. Beauvoir m'a beaucoup intéressé. Parce que moi, j'ai pas trop trouvé de militantisme. Je trouvais qu'il y avait une... comme c'était un écrivain, elle n'était pas dans l'idéologie vraiment. Elle dépassait ça. C'était même dans ses romans, on voit bien que ça, c'est des histoires. C'est un positionnement très libre. C'est une situationniste avant l'heure, je dirais.
Oui, t'as pas parlé de Debord aussi un peu.
De Debord, le situationnisme, voilà, oui, bien. Mais je vais pas parler de Debord. Debord, c'est quoi? C'est la critique essentielle de la société du spectacle, dans laquelle nous trouvons englués jusqu'au cou. Donc pour ça, il faut savoir s'en sortir. Guy Debord et Solaire, c'est les deux grands. C'est les deux grands pôles, moi je pense, de la pensée de la fin du XXe siècle. Bon, Solaire, c'est encore là au début du XXI, bien sûr. Et il y en a un qui a choisi une surmédiatisation pour mieux ne pas se faire voir, c'est Solaire. Et il y en a un qui a choisi une position de repli. leurs deux stratégies sont pour moi complémentaires. Voilà.
D'accord.
Il y en a un qui est plus romancier, évidemment, solaire, plus littéraire, et l'autre qui est plus, comment dire ça, essayiste, analyste, mais voilà.
Ouais.
Donc la société du spectacle, comment on a voilà, les nouveaux commentaires sur la société du spectacle, comment. Comment depuis Hitler, en passant par Staline, en passant par la phase américaine, comment ces différents spectaculaires intégrés, spectaculaires diffus et spectaculaires concentrés, je crois que j'ai dit dans le désordre, mais c'est pas grave, nous permettent de comprendre dans quel carcan on vit, quoi. C'est-à-dire qu'on vit quand même dans un carcan du spectacle.
Oui.
Si on passe dans le spectacle, on est connu. Si on passe pas dans le spectacle, on est inconnu.
Oui.
Donc,
c'est-à-dire
restons inconnus le plus
possible. C'est ce qu'il dit au début. En plus, aujourd'hui, tout ce qui se vivait autrefois d'une manière sans témoin, en fait, aujourd'hui...
Ça s'appelle la surveillance, de toute façon.
Ouais.
La surveillance qu'il y avait sous le nazisme, qu'il y avait sous Staline, au combien avec la Stasi, et qu'il y a aujourd'hui avec l'Empire américain, quand même.
Mais qui est... introjecté aujourd'hui
qui est introjecté dans nos portables,
puisqu'on
a des films qui peuvent voilà, mais ça c'est et le problème c'est qu'on peut à la fois le critiquer mais on peut pas en sortir,
c'est ça,
ça c'est sûr, c'est
mais parce que
personne peut en sortir,
mais parce
même
que
le dernier berger des Landes qui vit dans un coin reculé.
Oui, parce qu'on est dans ce monde-là.
Et sinon, c'est Robinson Crusoe, mais Robinson Crusoe.
Non, mais c'est plus possible aujourd'hui, à cause de la technologie.
On est surveillé partout. Alors après, il y a quand même des zones de, repli, je pense, mais voilà.
Bon,
par rapport à certaines heures, à certaines saisons, à certains, on peut se replier. Enfin, il faut le souhaiter.
De toute façon. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on avait ? Sad.
Oh, mais là, Sad, c'est le gros morceau. Ça.
Voilà, mais bon.
C'est le gros morceau. C'est le gros
malheureusement,
morceau.
C'est un peu la peau de chagrin de l'émission et ça va être
Sad,
un gros morceau.
Mais... Sad, de toute façon, moi, je pense qu'il faut penser. Pour moi, les trois. Je pense que les pourfendeurs du préjugé social. Enfin, en tout cas de la société, c'est Sade d'abord qui vient.
Il faut le recontextualiser
voilà,
aussi. Hein.
Lui, Sade, en fait, il n'écrit, selon moi, que sur l'hypocrisie sexuelle. Voilà. Il ne raconte pas ses affres sexuelles parce qu'il ne pourrait pas en faire le centième. Et d'ailleurs, il n'a assassiné personne, il a un peu molesté des filles de joie. Je sais pas si ça s'appelait comme ça à l'époque. Et donc, après, son œuvre, c'est une œuvre théâtrale. C'est une œuvre romanesque.
Mm-hmm.
C'est ça qu'il faut comprendre.
Voilà.
On peut pas, si on prend Sade au premier degré, au secours. Sade,
oui.
C'est un auteur.
C'est comme Laclos pour Les Liaisons Dangereuses, quoi.
Voilà, en quelque sorte. Alors, il y a quelque chose de l'espérance, mais dans Les Liaisons Dangereuses, c'est pas très grave. Chez Sade, c'est.
Oui,
un
mais
peu plus grave.
Je veux dire, dans le sens de confondre.
Voilà, c'est des choses qu'on peut plus dire. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des assassinats, c'est-à-dire, c'est la pulsion sexuelle. C'est-à-dire, c'est faire avouer, je sais pas si on peut dire ça sur la radio, mais tant pis, c'est faire avouer qu'en fait, on a une pulsion criminelle en nous, et que si on n'a pas conscience de cette pulsion criminelle, on devient assassin. Mais si on lit ça, justement, on sera préservé, peut-être, de ce passage à l'acte qui est le meurtre.
On peut faire un lien aussi avec Pasolini et son cinéma sur ça, justement,
complètement.
Qui est insoutenable. Hein. Enfin,
c'est insoutenable parce que ça, on n'est pas obligé. Enfin, le livre est déjà insoutenable, Les 120 Journées de Sodome, mais
Pasolini.
Chez Pasolini, il y a effectivement. Alors, ce qui est le.
Mais je crois qu'il a regretté en plus ce film.
C'est le côté des excréments. Enfin, c'est pour dire ça dans un langage un peu châtié. C'est la partie des excréments où les gens sortent. La partie à se torture, oui, mais bon. Aujourd'hui, on a Tarantino qui fait ça très bien, machin. La torture. Mais l'excrément, quand même, à part John Waters, personne a montré ça comme ça. John Waters, lui, c'est un peu plus ludique, c'est avec Givine. John Waters, on parlait aussi de l'underground. Ben là, on est dans l'underground, hein, avec Pasolini, avec Sade, avec John Waters. Avec Burroughs, on est dans l'underground. Et l'underground, c'est de sous la terre, c'est ce qu'il y a sous la terre, donc c'est ce qu'on veut pas voir.
Ouais.
Bon, à Bordeaux, il n'y a pas d'underground puisque le tramway il est aérien. Mais Pasolini, après ouais, mais ça c'est super, c'est un immense poète, grand scénariste. Il y a un film de Mario Bolognini, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Les Garçons, avec Terzieff et Briali, qui est extraordinaire. C'est-à-dire, tout le monde couche avec tout le monde du début à la fin du film.
D'accord.
Donc, je ne sais pas si on peut dire ça, mais je le dis quand même. C'est un grand film.
Bon, on va dérouler, on va pratiquement arriver à la fin. Tu peux nous parler peut-être de... de l'écrivain d'abord et ami Stéphane
Zagnoski.
Voilà. Et puis ensuite, pour finir, tu nous liras un passage de Kooning. Oui. Et ensuite, on prendra rendez-vous pour un deuxième volet.
Je suis honoré.
Chez toi.
Je suis honoré. J'espère que je serai à la hauteur.
Parce que là, c'était une émission un peu spéciale où l'enregistrement s'est déroulé. Dans l'ancien atelier de Claude et Sophie Chambard. Donc,
quel honneur.
Voilà, je ne savais pas que, où j'habitais.
C'est très bien.
Le sait-on jamais.
Oui.
Donc Zagdanski
oui.
D'abord.
Alors oui, Stéphane Zagdanski. Ben, lui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré autour des années 2000. À Toulouse, et j'étais intéressé parce qu'il traitait à la fois la question Céline et la question Proust, et je me dis quand même comment on peut faire ça. Donc j'avais lu un article dans l'Infini qui s'appelait Céline et Proust, et tout de suite je me suis dit quand même quelqu'un qui est capable de faire cette synthèse à la fois sans préjugés sur Céline et puis la cathédrale qu'est l'œuvre de Proust.
Oui, donc, alors que lui-même, tu veux dire, en plus, est juif.
Bien sûr, voilà. Bien sûr. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Donc, cette question des pamphlets, en tant qu'effectivement, appartenant à la communauté juive, c'était quand même assez exceptionnel.
Ouais.
Depuis, il a écrit un livre extraordinaire aussi qui s'appelle « De l'antisémitisme », ou peut-être qu'il avait écrit avant, je ne sais plus. Et voilà, et on s'est rencontrés, et on est devenus...
Amitié.
Il y a eu une amitié, effectivement. Moi, j'ai toujours été impressionné, parce qu'il avait une œuvre, justement, considérable. Et aujourd'hui, il a décidé plutôt de se consacrer aux arts plastiques.
Voilà. Mais d'une manière radicale, quand même.
De toute façon, dans tout ce qu'a fait Stéphane, ça a toujours été radical.
Ouais.
Et c'est en cela que c'est remarquable et que ça a pu faire, dans le cas du milieu théâtre, des frictions irréconciliables.
Oui,
mais
oui.
Ça, c'est le jeu.
Mais après...
moi, je ne pourrais pas parler de ça. Mais ouais. Après, voilà, après, on a fait un film. Ouais. Donc, en 2006, me concernant, on a pu faire... ce film qui s'appelle Résurrection de Proust.
Donc il y a une vidéo aussi.
Il y a une vidéo.
Que tu vends aussi ?
Que je vends.
C'est compliqué pour eux parce qu'on ne les voit pas, on ne les trouve pas sur Internet. T'es pas marchand, toi.
Non,
la société du spectacle avec toi, elle n'a pas de beaux jours.
En tout cas, ce n'est pas la société marchande.
Voilà, marchande.
Mais voilà, donc on a fait ce film. Alors on a eu la chance, ça c'est un peu pour rigoler parce que c'est à la fois la frime, mais à la fois c'est drôle parce qu'on ne se prenait pas trop au sérieux. On a pu aller au Ritz. On a tourné une scène au Ritz, donc ça c'était rigolo. Et simplement en faisant un petit mail au Ritz. Et donc Stéphane commence le truc comme ça, à propos de Proust, il commence et il dit, je cite ces mots, il dit « Qu'est-ce qu'un classique ? C'est quelqu'un dont tout le monde parle, mais que personne ne lit. »
Oui.
Voilà. Donc, voilà, et donc le film est tout à fait visible. Et voilà.
Bon. Très cher Jean-Hugues, voilà bientôt une heure et quart que nous déambulons, moins les passages musicaux. Oui. Est-ce que tu nous ferais le plaisir de lire un passage de ton ouvrage, Le rire de Kooning ?
Mais je vais essayer.
Mais oui.
On va voir ça.
Je te remercie et donc je te dis à très bientôt chez toi où on va faire connaissance avec des livres en particulier, plus particulièrement tes livres.
D'accord.
À toi.
Elle se tient toute seule, cette explosive apparition dans le jardin à la française des Tuileries. Elle se tient toute seule, cette explosive apparition dans le jardin à la française des Tuileries. C'est la standing figure de Kooning. Comme un aérolithe qui serait tombé là sans faire de marque au sol. Une torsion originelle du monde en suspension. Une obscénité comique de 3,50 m de haut sur plus de 6 de large. Son poids semble être de 10 tonnes ou beaucoup moins si l'on perçoit sa légèreté voulue. souple gesticulation ténébreuse à 3 ou 4 tentacules, elle barille silencieusement, sûre de sa puissance, dans sa belle ironie de plomb. Bronze hystérique à toute direction, ses appendices sont une série de jambes jetées en l'air, des modelages naïfs roulés au doigt qui perforent gratuitement l'espace. Je vois une géante écartelée qui se débat, un fauve brillant sous l'électrochoc d'un tir de balle, une éclaboussure involontaire de gros pots de peinture, un ressac infini, un combat maladroit à main nue, une partouze compacte, une simple figure debout. Un grand rectangle de pelouse lui sert de socle. Paris lui a aménagé ce bel espace, presque digne des grands jardins des musées américains. Cette figure érectile est aussi bien un Stabat Mater qu'une Pietà. De la souffrance, en veux-tu en voilà, debout, couché, d'accord, mais goûte cette suprême force de création dans son dépassement. Elle peut jouir de sa métamorphose perpétuelle, rire d'elle-même, surmonter sa peur d'être incomprise, laisser libre cours à l'imagination de quiconque. Passer à l'envie d'une situation aplanie à sa propre érection. Son repli et son déploiement sont à volonté. Explosion, implosion, indétermination. Iris, en démultiplicatrice de la projection des dieux, avec son ouverture de matrice infinie, est une figure au reflet clair qui transperce son bronze sombre. Elle laisse deviner sa matière d'incandescence interne. On sent les geysers, les laves, les purulences la travailler de l'intérieur, cette forme de l'ombre qui s'irradie pour rien et s'aspire dans sa cavité vide. Aucune autre œuvre ne pourrait la jouxter. L'imaginer quand même suspendue dans le baldaquin aux colonnes torsadées de Bernin, à Saint-Pierre de Rome. Impériale matrice du non-sens, sens interdit du dire, classique ancestral, baroque très comique, moderne paradoxal, contemporaine pour rien, post-moderne pour le moins. Grande fête jubilante concentrée, dernier grand totem américain échoué ici au cœur de Paris, retrouvailles de la ronde rituelle aux franges de toutes les couleurs. Ce chant évocatoire du grand chaman hollandais est une incroyable ironie pour l'ultime danse de la pluie, le rafraîchissement des temps oubliés. Contraire parfait de la mécanique mobile d'un calder, cette implosion de De Kooning est une plume, une simple plume, sensible, très sensible au courant ascendant et descendant du ciel de Paris.